13h30 sur France Inter. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Sarvajan.
Au programme de la marche de l'histoire aujourd'hui, la métropolisation.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des régions, mais qu'est-ce que c'est que les métropoles? Ça va être la métropole pour les nuls aujourd'hui.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Horizon métropole.
Bienvenue à bord de ce TGV à destination de Paris-Nord.
Le TGV, c'est la première, la plus grande réalisation qui a permis à la métropole de véritablement faire oublier les terribles années 70-80.
Ce TGV sera sans arrêt de Lille à Paris-Nord.
Samedi dernier, dans Libération, trois pages de publicité envoyaient un jeune couple invité à rejoindre en TGV le Nord pour goûter les charmes de Lille Métropole qui, comme chacun sait, une fête constante qu'on vient partager depuis Paris, Bruxelles ou Londres. Le même jour, les pages politiques du quotidien étaient nourries par une inquiétude. Et si les électeurs de la région dont Lille Métropole est la capitale choisissaient pour les diriger un parti qui recommande la fermeture des frontières? Nous sommes dans cette contradiction. Au temps de la mobilité impérative, la métropole serait la meilleure configuration qui assurerait la présence au monde d'une ville. Dans une métropole, il y a assez de ressources, de fils combinés pour pouvoir s'adapter au changement. La métropole, c'est un commutateur, une activité s'éteint, on en allume une autre. Le risque, c'est qu'en retrait se tienne une France qui ne partage pas cette fièvre. La mobilité a un coût très lourd pour qui a une formation ou des revenus modestes, sans compter qu'elle bouleverse les repères géographiques traditionnels. On a beaucoup parlé de souffrance sociale. Certains proposent de réfléchir aussi à la souffrance spatiale. En tout cas, avec la métropolisation, il est difficile de garder la représentation d'un territoire qui serait fondé sur l'égalité.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Béatrice Gibelin, bonjour.
Bonjour.
Géographe, vous avez entendu l'exergue de la marche de l'histoire qui vous concernait. Vous dirigez depuis pas mal de temps la revue Hérodote qui, elle-même, est une revue hors d'âge. Hein.
Hors d'âge, n'exagérons pas, mais effectivement, pour un whisky, ça ferait beaucoup.
C'est 40 ans.
Ouais. Nous fêtons les 40 ans d'Hérodote au début de l'année 2016.
Et puis, le nord de la France, c'est votre port d'attache.
Oui, c'est ma région d'origine et j'y ai fait ma thèse, la région territoire politique. Et j'y reste effectivement toujours très attachée. J'ai suivi les élections de près dans cette région de gauche.
Qui était de gauche?
Qui était de gauche. Je pense qu'elle l'est encore par certaines caractéristiques. Elle ne l'est plus au Conseil régional, bien sûr. Mais on n'efface pas une histoire, et vous le savez mieux que personne, Jean, on n'efface pas une histoire aussi rapidement que par une élection.
Enfin, il ne nous a pas échappé qu'il y avait une sorte d'abandon réciproque entre les dirigeants de gauche et le peuple du Nord.
Oui, mais il y a aussi, vous avez raison, mais je vais prendre le cas de Liévin qui est à côté d'Hénin-Beaumont. Le jeune maire de Liévin a été élu au premier tour comme Steve Bruyra à Hénin-Beaumont avec 55% des voix au premier tour. Et quand la droite faisait 9% des voix à Liévin au premier tour des régionales, Bertrand obtient plus de 50% des voix, de façon à essayer de faire pièce au Front National. C'est des signes qui sont importants et je crois qu'on n'efface de toute façon pas une histoire de gauche dans cette histoire d'une région si particulière.
Alors, on va venir à cette région si particulière dans la deuxième partie de la marche de l'histoire, si vous le voulez bien, Béatrice Gibelin. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez considérant l'ensemble du territoire français, les processus de métropolisation. En France, l'histoire des métropoles, elle est liée à celle de la décentralisation, telle qu'on l'entendait dans les années 50-60, décentralisation que voulait organiser l'État. Alors je vous propose, petit flashback, d'entendre le grand Manitou de l'aménagement du territoire qui était Olivier Guichard, nous sommes dans les années 60, et puis le grand élu de Saint-Étienne qui était Michel Durafour.
Je n'aime pas le mot métropole régionale, car l'expression de métropole d'équilibre me paraît convenir mieux à la politique que nous entendons mener. Une métropole d'équilibre, c'est sans doute une certaine concentration de population nécessaire à l'obtention de certains équipements. mais c'est avant tout pour nous un centre d'attraction régionale et aussi un centre de rayonnement. Il est indispensable, voyez-vous, que dans une période d'urbanisation accélérée comme celle que nous vivons, nous préparions les infrastructures urbaines qui feront face à ce mouvement général.
Chercher, à part Paris, les villes qui sont capables de faire contrepoids à Francfort, à Munich, à Milan, à Turin, à Hambourg, et il y en a bien d'autres, et vous ne verrez en définitive que le complexe Lyon-Saint-Étienne auquel s'est rattaché récemment Grenoble.
Oui, enfin, bon, la Durafour, il tire la couverture à lui. Enfin, il y a aussi Nantes-Saint-Nazaire, il y a aussi Lille, l'idée de métropole est assez précoce là-bas. Les métropoles d'équilibre telles que le gouvernement voulait en décider dans les années 60, elles étaient au nombre de 8.
Elles étaient au nombre de 8 et vous avez dit que c'était la décentralisation. Non, c'était pas la décentralisation, puisque l'État gardait totalement la main sur toutes les compétences. C'était l'aménagement du territoire et vous avez passé un passage avec Olivier Guichard, qui a été le premier responsable de la DATAR, mais c'est l'État qui a totalement les cartes en main et qui se décide effectivement à mettre en place ces fameuses métropoles d'équilibre. C'est quand même encore la représentation de Paris et le désert français, de Gravier au sortir de la guerre, et qu'il fallait donc rééquilibrer le territoire. Et on avait une représentation claire et assez simple. Dans les grandes villes, les services rares, et ensuite, dans les villes moyennes, les services de proximité, et dans les petites villes, alors là, le minimum du minimum. On était sur une représentation très hiérarchisée des services. On découvrait les services. Hein, puisque c'était l'industrie était encore extrêmement forte dans les années 60. Et donc, c'était le début de la prise de conscience que les services allaient permettre une activité, un dynamisme avec lesquels il fallait impérativement jouer. Et puis, on sortait aussi de la représentation de la province absolument abandonnée par Paris, ou presque. Et on avait perdu toutes les colonies. On est 63-64, c'est le début de la DATAR, et la fin de la guerre d'Algérie, c'est 62. Donc, on se replie aussi sur notre hexagone. Et on se dit qu'il faut mieux l'aménager pour mieux en tirer parti. Donc, l'État décide des 8 métropoles. On demande l'avis de personne. C'est de même quand on créait des communautés urbaines, on ne demandait pas non plus l'avis des élus locaux. Ils apprenaient que leur ville était dans une communauté urbaine. Donc, c'est absolument pas une période de décentralisation. Je pense que la France n'a jamais été autant centralisée qu'à la fin des années 60.
Déconcentration, alors, dira-t-on. Mais quand chacun ressent dans son quotidien et la ville, encore plus que les individus, l'avènement du monde, ça va provoquer une transformation de la localisation des emplois. Qui dit mondialisation va dire déterritorialisation des emplois. Les emplois industriels vont pas tous disparaître comme on le pense en France, mais ils vont souvent se déplacer hors des territoires métropolitains, lesquels vont être dévolus aux emplois de service dont vous parliez.
Effectivement, alors je dirais plutôt reterritorialisation que déterritorialisation, hein, parce qu'ils sont toujours bien implantés quelque part. Bon, donc ils ne sont pas hors sol.
Dans la nature,
tout,
oui, hein, vous avez donc, raison. Voilà, Merci de la précision.
Ils sont simplement, hélas ou pas hélas, mais ils changent de lieu. Alors c'est évident que la région, par exemple parisienne, était la première région industrielle de France dans les années 60-70. Bien, donc ça reste une grande région économique, mais personne ne perçoit plus la région parisienne comme une région industrielle. Et puisqu'on prenait l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, ça a été une région industrielle évidemment très très puissante et qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui a aussi un peu de mal à passer totalement au service. C'est pas si simple, vous avez parlé de commutateur.
Bah oui, il y a plein de fils qui sont noués et on peut changer d'activité quand
c'est pas si simple.
L'exigence du monde l'impose.
Non, l'exigence du monde l'impose peut-être, mais ça va prendre un certain moment. Et puis parfois on a des courts-circuits et il faut trouver le moyen de savoir où on a mis les plombs, de remettre le disjoncteur. Tout ça prend un peu de temps et est un peu difficile.
Ouais, mais si on utilise un vocabulaire plus moderne, Béatrice Gibelin. Les fonctions métropolitaines, c'est quoi? La banque, la finance, l'université, les arts et le loisir.
Les arts et le loisir, énormément. Vous preniez l'exemple de Lille, on voit très bien, et Martine Aubry l'a parfaitement compris, elle joue la carte de la culture à Lille, avec d'ailleurs des événements qui sont souvent de qualité et qui font beaucoup parler de Lille. Elle a pleinement joué cette carte-là. La culture, c'est une source d'emploi, d'activité, d'image, mais aussi d'élévation d'un niveau intellectuel et culturel d'une population qui en avait grandement besoin.
Et puis une élévation de visibilité. Mais je vais vous tirer quand même du Nord, Pas-de-Calais, Picardie, pendant un instant, vous faire dire que maintenant les métropoles telles qu'on cherche à les institutionnaliser du côté de l'État, elles sont plus de 8. Elles sont 10 et elles doivent devenir 12. Et celle qui s'est formée le mieux, le plus vite, c'est Lyon.
Incontestablement.
1 300 000 habitants.
Effectivement, mais quand vous dites 12, on a des métropoles qui ne sont pas toutes exactement équivalentes dans leur importance. En fait, on a 3 métropoles, il me semble, fortes. C'est Paris, c'est Lyon et c'est Marseille. C'est-à-dire que c'est des agglomérations, ou des villes même, dans le cas de Paris, qui dépassent le million d'habitants sans difficulté. Pour les autres métropoles, on avait prévu d'aller jusqu'à 500 000. À partir de 500 000 habitants, on pouvait avoir le titre de métropole. Mais du coup, comme Nantes n'en avait que 400 et qu'on avait Jean-Marc Ayrault, on est descendu à 400. Et puis après, on s'est dit, mais au fond, Strasbourg pourrait bien évidemment être une métropole, puisqu'on n'en a pas dans le Grand Est, il en faudrait une. Ah oui, puis il faudrait bien évidemment qu'on garde Bordeaux, parce que... Donc, en fait, on retrouve, si vous voulez, ce côté classique en France, où on va en mettre un peu partout, où chaque région va avoir une métropole. Et avoir le titre de métropole, c'est important, parce qu'effectivement, ça donne du pouvoir à la métropole.
Mais Montpellier, parce qu'il y a une institutionnalisation, avec des pouvoirs fiscaux, mais économiques particuliers.
On a des niveaux différents, parce que pour les 3 premières que j'ai citées, c'est la loi et c'est l'État qui les impose. Sinon, Marseille n'aurait peut-être jamais eu une métropole. Alors que... À l'autre niveau, ce sont les élus qui décident de rentrer et de faire métropole, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors on va justement examiner le cas de Marseille, si vous le voulez bien, parce que entre Aix et Marseille, il y a une forte dualité, comment les réunir, et entre Marseille qui a tardé à faire son groupement intercommunal autour d'elle dans les années de fer, il y a une forte dualité avec les villes de la périphérie. Un exemple, France 3 Provence Côte d'Azur, c'était en 2012, on va entendre le maire à l'époque socialiste et sénateur de Dallo, à côté de Marseille, 16 ou 17 000 habitants.
On va pas entamer la guerre des territoires, c'est ce qui nous pend au nez si on passait la métropole en force.
Et ce qu'on demande finalement, c'est de partir de cette base de discussion qui est entre le pôle métropolitain, qui était déjà une première proposition, et la métropole intégrée.
Quand on est trahi, il faut le dire, c'est tout. Moi je suis socialiste, mais je défends ma population avant tout, qu'on veuille pas, c'est tout. Il y en a cocu.
Voilà Marie-Lise Lebranchu prévenue devant l'entrée du parc Chanot. Le bouillant maire d'Allo n'a pas de mots assez forts pour dire son opposition au projet de métropole marseillaise défini par le gouvernement.
Demain, c'est la métropole qui va faire l'urbanisme à Allo. On va passer à 100 000 habitants, des tours, et si on n'en veut pas, nous, des tours. Hein ? Moi, j'estime, je suis plus heureux à Allo qu'à Shanghai.
Et alors, Béatrice Gibelin ?
Marseille, c'est vraiment exemplaire, si vous voulez, parce que là, on n'avait pas du tout, par exemple, un clan de droite qui aurait été pour la métropole et un clan de gauche qui n'aurait pas été pour la métropole, ou l'inverse d'ailleurs, c'était effectivement trans-courant, c'est-à-dire qu'il y avait les forces économiques et un certain nombre d'élus comme Menucci, qui était socialiste, très favorable à la métropole, et puis on avait l'alliance de Gaudin avec Guérini, ex-socialiste, pour être contre la métropole. Bon, donc on avait des querelles extrêmement fortes, et Marie-Lise Lebranchu a eu beaucoup ministre. De patience, la ministre de la Réforme territoriale, beaucoup de patience pour aller négocier, jusqu'au moment où, effectivement, l'État a imposé la métropole à Marseille. Parce que la métropole, c'est aussi le moyen de rationaliser un certain nombre de décisions d'aménagement. Par exemple, les transports. Longtemps, cette agglomération, qui est extrêmement importante, a eu un réseau de transport et encore aujourd'hui, doit considérablement être améliorée. La gestion du logement, elle peut être faite aussi de façon rationnelle et commune. Et le maire d'Allo qui dit « Et moi, si les tours ne me plaisent pas, mais on va d'abord pas lui coller des tours n'importe où, n'importe comment. » Mais la métropole est aussi un instrument. Mais c'est vrai aussi que ça peut devenir un grand machin, une grosse institution qui va avoir un certain nombre de pouvoirs, c'est-à-dire qu'à la limite, dans les Bouches-du-Rhône, il ne restera plus grand-chose une fois qu'on aura installé la métropole de Marseille. Donc après, c'est un peu comment les hommes accepteront de la faire marcher, comme
parce
toujours.
Parce que quand même, l'impression d'ensemble qu'on a, et on n'a pas parlé de l'obscurité de Paris Métropole, on sait simplement que personne, ni chez les Républicains, ni chez les Socialistes, ne veut que Nathalie Kosciusko-Morizet n'en soit demain la présidente.
Encore
on a
moins
quand même
aujourd'hui.
L'impression d'une obscurité démocratique.
Oui, assurément. Le seul endroit où on peut se dire qu'il n'y a pas d'obscurité démocratique, c'est au niveau de la commune. Bon. Et on sait les Français attachés à leur commune. Mais on sait aussi que gérer un certain nombre de problèmes aujourd'hui, y compris avec la mondialisation, ne peut pas se faire à l'échelle de la seule commune. Et puis on se rend compte aussi que, avec le temps, les gens apprennent à travailler les uns avec les autres. Ce n'est pas absolument rédhibitoire.
Les gens qui sont compétents, mais les électeurs ont l'impression que le lieu de décision principale devient un angle mort politiquement.
Non, je pense que c'est pas tout à fait juste. Je reprends par exemple, vous allez me dire que je reviens trop vite au nord, mais Lille-Roubaix-Tourcoing, parce qu'il a fallu les trois villes pour faire une métropole, se détestaient copieusement. Bon, ben, on se rend compte aujourd'hui que au sein de la communauté urbaine, ça travaille pas si mal.
Mais on va y venir au nord. En effet, il est grand temps. Vous imitez assez bien l'accent marseillais. On s'en est aperçu, Béatrice Gibelin, et le ch'ti.
Lampiste, même chute lampiste. M'lan pal va bien, mais mi su triste. M'lan piste, et m'chote l'en piste. Garde à tes mains, m'lan pal va bien. Acheteur d'attouches et fausses, pour y trier le carbon. À niveau plus que des gosses, des filets, des garçons. À l'empisterie pointe bile, on est tout émotionné. Quand t'as demandé à chez Phil, et slop pour dévaler. Allez, remise cette quoi, insère ses poils à sa béga. M'lampiste, et m'chote lampiste. M'lampal va bien, mais m'y suis triste. M'lampiste, et m'chote lampiste. Garde à tes mains, m'lampal va bien. M'lampiste, et m'chote lampiste. M'lampal va bien, mais m'y suis triste. M'lampiste, et m'chote lampiste. Garde à tes mains, m'lampal va bien. Quand t'armes et t'allumettes, dame lampe quand il n'a plus. J'sais que j'devais tout bête, tellement j'ai su confus. T'as un mouchoir bleu sucette, avec ses chopos blancs. J'ai fait tourner m'barrette, et j'n'ai plus d'goût des châteaux fond. Et j'vaux tes yeux mignons, ta cour jupon d'un macarbon.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bienvenue à Euralille. Welcome to
Euralille. Les TGV Lille-Londres et Lille-Bruxelles, mais aussi les TGV vers Roissy, Lyon, Marseille ou Montpellier, 15 000 personnes chaque jour. Des voyageurs qui pourront de la gare prendre le tramway, mais aussi le métro vers Roubaix et Tourcoing, dans la plus vaste station de la métropole.
Il faut vraiment prendre Euralille comme une usine moderne. Ce sont les usines de l'an 2000, c'est-à-dire une usine où il y aura des bureaux, des logements, des commerces, où il y aura par conséquent des emplois et où on échangera, on gagnera de l'argent. C'est une usine tertiaire.
Réflexion géographique aujourd'hui avec Béatrice Gibelin sur le thème « L'horizon, c'est la métropole ». Et on a lu en même temps, par la juxtaposition des deux sons qu'on vient d'entendre, la chanson d'Edmond Tanière et le refrain de Pierre Mauroy sur la métropolisation, la collision des temps. Parce qu'on est dans la même époque, années 80, tanière chante le vieux nord des lampistes, ceux qui apportaient les lampes, donnaient les lampes aux mineurs, et mon roi dit, voilà, maintenant, nous sommes dans le temps de la circulation entre Paris, Londres et Bruxelles, nous on est au cœur de ce triangle et on va en tirer parti en faisant une métropole qui va relever l'économie du Nord.
On n'est plus déjà exactement dans le même temps, puisque la dernière gaillette, c'est-à-dire le dernier morceau de charbon, est remonté le 30 décembre 1992, et que le TGV, effectivement, c'est concomitant, mais juste un peu plus tard. Donc on a déjà basculé. Hein, on n'est plus exactement entre les deux. Mais je vois bien Pierre Mauroy et ses grandes mains expliquer que Euralil, c'est les usines d'aujourd'hui. Euralil, c'était effectivement son grand projet. Et il a eu d'ailleurs la force de résister à densifier autour de la gare de Lille en disant non, il faut garder les terrains, parce que quand on aura le grand équipement, là, on pourra faire un aménagement qui soit adapté à la taille de ce que doit être la métropole
du
Nord.
On peut revenir un instant en arrière aux années où il a quitté Matignon, où il a un fort réseau et des idées et du temps. Il veut que le TGV qui va relier Londres passe à Lille. Oui. Et l'idée du quartier d'affaires autour de la gare nouvelle naît à cause de ça.
Naît à cause de ça. Et il s'est battu pour que ça passe à Lille. Parce que la SNCF voulait pas. Hein, parce que l'idée, c'était de concurrencer l'avion. Il fallait donc aller très très vite à Londres. Et autant la SNCF a payé la gare de la Part-Dieu, autant elle n'a pas payé la gare de Ralil au cœur de Lille. Et ça a été un vrai combat qu'il a mené même contre les autres membres de la métropole. Moi, j'ai très très bien connu André Diligent, maire de Roubaix, et qui me disait mais Béatrice, il ne faut pas que le train ça s'arrête à Lille. Pour nous, c'est la mort. Dans un premier temps, c'est ce qu'il pensait. Il voulait même pas le métro à Roubaix, parce qu'il disait autrement, ils vont tous aller à Lille et moi, je vais plus avoir de Roubaixiens qui vont acheter chez moi. Donc, pour vous dire qu'il a vraiment mené un combat. Et après, tout le monde s'est mis derrière lui, tous les élus.
Néanmoins, les réserves de l'élu de Roubaix ou de l'élu de Tourcoing ou de l'élu de la périphérie un peu plus lointaine ne sont pas sans fondement, parce qu'à côté de Ralil, il y a le Vieux-Lille. Le Vieux-Lille a été profondément transformé. C'est un lieu de haute chalandise, parce qu'on peut dire qu'il y a cœur de métropole dès lors que Dior et Hermès s'installent.
Oui, j'aime beaucoup cette formule que vous reprenez. Moi, j'ai connu le Vieux-Lille comme un lieu où on n'allait jamais. Quand j'étais étudiante, c'était un lieu taudifié. Personne, il y avait juste un théâtre où on allait, le théâtre des Flandres, mais sinon personne n'allait dans le Vieux-Lille. Et aujourd'hui, effectivement, avec la rénovation qu'il y a pu avoir, on a redécouvert une architecture, d'ailleurs, avec l'hospice Comtesse, très bien mise en valeur, et c'est le cœur, un peu comme le centre de Montpellier, qui était assez taudifié par certains côtés et qui est redevenu un centre. Mais métropole ne veut pas dire richesse sur l'ensemble du territoire.
Bah non, justement, il faudrait que vous parliez de ceux qui ne sont pas socialement bien constitués. Ça peut être les gens de quartiers très proches du Vieux-Lille et qui sont en dégringolade. Les dénivelés peuvent devenir des gouffres. Ou on pourrait aussi bien parler, tenez, au cinéma du Bailleul de Bruno Dumont.
Oui. Bien sûr.
Le héros de la vie de Jésus vient de mourir dans l'incendie de son appartement. Sans doute l'appartement ne présentait-il pas un excellent bilan écologique. Et puis on pourrait parler du cinéma de Tavernier, vous savez, le film dont Sampiero était le scénariste et qui se passait pas si loin de Lille, du côté de la banlieue de Valenciennes. Le maire, c'était un grand modernisateur. Il était interprété dans le film par Philippe Meyer. Et on voit que il comprend pas très bien ceux des membres de son personnel qui disent « mais il faut aussi protéger le territoire ».
L'avenir de notre région, vous le savez, c'est le tourisme. Il faut changer notre image. Il faut en finir avec Germinal. Du passé, faisons table rase, chanter nos adversaires. Eh bien nous le ferons. Il faut montrer que nous sommes modernes, accueillants, européens. Mettons du soleil sur nos terris. Ne nous replions pas sur un protectionnisme frileux, mais adaptons-nous aux lois du marché.
Alors, monsieur Delaunay, vous nous avez encore retiré un poste de péricultrice et puis un poste de psychologue.
Ne dramatisez pas. Vous savez à combien vous êtes de la moyenne nationale ? 93%, hein ? 93%.
La moyenne nationale, monsieur Delaunay, mais c'est quoi ? Ce sont des chiffres abstraits qui n'ont aucun sens sur le terrain. Une péricultrice pour 250 naissances, c'est Byzance à Neuilly. Ici, c'est une catastrophe.
Bon, nous consacrons 45% de notre budget au social. 45%, c'est pas un chiffre abstrait, ça.
Ce que je vois, moi, c'est que vous avez économisé des millions en fermant le planning familial. Et que l'argent promis suite à cette décision, nous, la PMI, on n'en a pas vu la couleur.
Et les crédits énormes que nous avons débloqués pour l'aide à l'enfance délinquante. Et les éducateurs qu'on a installés sur le terrain. Et le concept Bibliobus, c'est nous qui l'avons inventé. Vous avez vu le succès que ça a auprès des jeunes?
Mais c'est avant qu'il faut agir. On récupère des millions sur le dos d'une population hyper défavorisée. On se décharge sur les associations pour s'occuper de toute cette merde. Et pour que tout le monde ait l'impression qu'on bouge, eh ben, on construit, on inaugure, on coupe le ruban bleu, blanc, rouge. Et on chante la Marseillaise.
Bah oui, ça veut dire quoi la moyenne nationale, voire la moyenne régionale, quand il y a d'un côté le vieux Lille avec Dior et Hermès, et de l'autre côté la banlieue de Valenciennes.
Oui, mais si on n'avait pas mis Dior et Hermès, ça ne veut pas dire pour autant que la banlieue de Valenciennes irait mieux. Donc, on ne peut pas non plus présenter les choses de cette façon-là. Mais c'est assez remarquable d'entendre ce dialogue, parce que effectivement, ça correspond tellement à une réalité. Mais il faut faire attention, justement, à l'idée que on a ces poches ou ces quartiers très aisés, mais on peut raisonner à une échelle plus large, qui est celle de la métropole de Lille-Roubaix-Tourcoing. Le Nord-Pas-de-Calais est une région que tout le monde connaît comme étant une région pauvre. On pourrait dire Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce que c'est pas beaucoup mieux en Picardie. Mais c'est aussi une des régions qui a le taux d'impôt sur la fortune parmi les plus élevés. Bon, c'est-à-dire que c'est effectivement une terre de très très grande inégalité. Et on a de très grandes fortunes qui sont parfois d'ailleurs de l'autre côté de la frontière, parce que c'est pas très difficile de se déplacer, mais qui sont là aussi, ce qu'on appelle le BMW, Bondu, Mouveau ou Ascal, qui est dans la région un jeu de mots, qui concentre effectivement les classes très aisées du Nord. Bien. Mais la métropole, moi je reste quand même persuadée que c'est un atout pour la région, malgré les aspects négatifs qu'elle peut avoir. Mais je suis aussi convaincue que s'il n'y avait pas eu la métropole, on aurait peut-être encore plus d'aspects négatifs. Donc j'ai longtemps et je continue à défendre Lille en tant que métropole, très souvent d'ailleurs à l'opposé de certains d'élus du bassin minier qui se sentent abandonnés. Et ça, c'est une représentation qu'il est importante et qu'il faut effectivement penser. C'est l'idée de l'abandon. C'est la province par rapport à Paris, c'est l'intelligentsia qui décide et qui nous oublie. Et il faudrait surtout pas que les métropoles apparaissent comme des états au sein des régions, c'est-à-dire les lieux capitales, riches, puissants, qui décident, qui ont le pouvoir, qui ont la bonne image, au détriment de tout le reste.
Donc il faut coordination et redistribution.
Donc il faut coordination et redistribution. Et être extrêmement vigilant sur ce sentiment d'abandon qui peut ne pas être réel dans les faits, mais qui est de toute façon perçu comme ça. Et à partir du moment où il est perçu comme ça, que ce soit vrai ou faux, il faut impérativement y porter attention. Et je pense qu'on ne l'a pas fait suffisamment.
Merci à vous, Béatrice Giblin. Je rappelle que vous dirigez la revue Hérodote qui... Au mois d'avril, je n'ose dire votre âge, pardon, l'âge de votre revue fêtera. C'est 40 ans. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec le concours de l'équipe de la Marche de l'Histoire, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, Guillaume Scaillet. À la technique, c'était Dimitri Gronoff. Alors, de quoi nous parlez-vous, cher Mathieu Vidard?
Eh bien, Jean Lebrun, dans La Tête au Carré, la prématurité et le développement de ses enfants nés avant terme.
Merci à vous, Mathieu.
À tout à l'heure.